With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut les fous du volant! À part les quelques vénards qui vont pouvoir nous écouter sur la plage, les vacances sont terminées. En tout cas, c'est bel et bien la rentrée des classes pour la Formule 1 qui reprend du service du côté de Spa pour le Grand Prix de Belgique. Et parmi ces vénards qui sont encore en vacances, il y a Stéphane Vrignot qui continue de se dorer la pilule tranquillement. Et aujourd'hui, je fais donc équipe avec Julien Pereira alias Jap. T'es prêt pour la rentrée, mon Jap?
Je suis prêt.
Cartable tout neuf.
Les vacances sont terminées depuis un petit bout de temps déjà.
Voilà. Bon, les protèges cahiers sont nickel et tout, pas abîmés.
Impeccable.
Comme à la rentrée, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, au programme des fous du volant, on va se demander que doit faire Ferrari pour gagner en 2022. Après le fiasco de la Hongrie, on essaiera d'identifier trois secteurs où la Scuderia peut ou doit évoluer pour gagner. Naïfs que nous sommes, nous vous avons laissé après le Grand Prix de Hongrie en évoquant l'arrivée d'Oscar Piastri chez Alpine en remplacement de Fernando Alonso. Bah, c'était sans compter l'incroyable saga de l'été qui est devenu ce Piastri Gate. On vous fera un résumé et puis on évoquera les suites possibles donc du transfert de Oscar Piastri chez Alpine. Où situer Sébastien Vettel? L'Allemand va tirer sa révérence à la fin de la saison. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut évaluer la performance, l'ensemble de la carrière du pilote allemand? Et bien avec Julien, on a fait un top 10 des champions du monde et on verra justement où on a classé Sébastien Vettel. On commence donc ces fous du volant aujourd'hui avec cette question: que doit faire Ferrari pour gagner dans cette dernière partie de saison 2022? On s'était quitté sur le fiasco du Grand Prix de Hongrie avec un Charles Leclerc qui, au volant de la voiture la plus performante, n'avait fini que sixième suite à des choix stratégiques qui défiaient toute logique. On est à 9 courses de la fin de la saison. Leclerc est deuxième du championnat avec 80 points de retard sur Max Verstappen. Alors on avait évoqué ce retard avant la trêve. Juste au moment de la trêve d'ailleurs avec Stéphane Vrignot, on avait constaté qu'il n'y avait plus eu de retournement de situation de cette ampleur depuis l'instauration du nouveau système de points. Donc, comment est-ce que Ferrari peut recommencer à gagner plus régulièrement? Julien, peut-être déjà en inversant une statistique qui vraiment saute aux yeux, c'est celle des pôles et des victoires.
Oui, parce que depuis le début de la saison, Ferrari brille grosso modo en qualification, beaucoup moins en Grand Prix, et Red Bull en profite. Vous voyez ces chiffres, Ferrari c'est 8 pôles depuis le début de la saison, pour 4 victoires seulement. Puis Red Bull c'est quasiment l'inverse, 4 pôles pour 9 victoires, et c'est là finalement que se fait la différence. Et vous savez, on a l'habitude en foot de dire, quand on prend une raclée en première période, il faut gagner à la deuxième mi-temps. Bah pour Ferrari, c'est un petit peu ça. Je pense que la deuxième partie de saison sera réussie, maintenant que Ferrari a quasiment fait une croix sur le titre, la deuxième partie de saison sera réussie si elle parvient à remporter plus de Grands Prix que Red Bull, tout simplement.
Ah, c'est ça, recréer une dynamique dans ce...
Pour construire, tout simplement.
Cette petite moitié de saison, il reste 9 Grands Prix à disputer, ça fait quand même beaucoup de points, sait-on jamais ce qui peut se passer. Surtout qu'il y a une différence par rapport à la première moitié de saison. C'est que Mercedes est en train de revenir un petit peu dans le jeu. Ça peut éventuellement prendre des points aussi si Lewis Hamilton et George Russell venaient à s'intercaler entre un Charles Leclerc doit viser la victoire maintenant. De toute façon, les podiums, c'est plus là. L'enjeu, c'est vraiment.
C'est déjà le calcul qu'il avait fait avant la trêve d'ailleurs.
Exactement.
Il disait qu'il fallait qu'il gagne tous les Grands Prix et que si Verstappen finissait deuxième et que lui finissait premier à tous les Grands Prix, il pouvait encore être champion. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec la catastrophe de Hongrie. Mais grosso modo, c'est aussi le discours de Binotto de dire on ne va pas tout changer, il faut continuer à apprendre et à s'améliorer. Et bah, cette deuxième partie de saison, elle doit servir à ça pour la Scuderia.
Bah justement, on va rebondir sur Mattia Binotto, tu y faisais référence. Peut-être que Avant de savoir ce qu'il faudrait faire donc au futur pour gagner, bah on va peut-être déjà parler un petit peu au passé, éventuellement ce qu'il aurait fallu faire pour gagner certains grands prix. On va revenir sur la scène assez incroyable qui a eu lieu après le Grand Prix de Hongrie. On avait un Mattia Binotto qui avançait des explications qui étaient contredites par la simple observation. Il nous disait que la voiture de Charles Leclerc était moins performante que celle de ses adversaires. Or, les chronos montraient l'inverse. Et en sport, on sait que si on veut progresser, ben, la première chose à faire, c'est de regarder les choses en face, d'observer les faiblesses qu'on a pour ensuite essayer y pallier. Alors peut-être aussi que Mattia Binotto, il a voulu laver son linge sale en famille, pas devant les micros, ce qui est plutôt à son honneur. On s'attendait à ce qu'il y ait des changements dans cette équipe Ferrari pendant la trêve. Pas d'annonce, rien. On continue avec le même staff. Peut-être aussi qu'on s'est parlé. Est-ce que ça peut suffire d'après toi?
Moi, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit il faut absolument changer des têtes, des grandes têtes, Binotto ou Iñaki Rueda, le boss de la stratégie chez Ferrari. Je suis pas certain que ce soit ça la solution. Ce qui est sûr, c'est que Ferrari a une équipe jeune en interne qui doit encore beaucoup apprendre, et je pense qu'il faut réussir à sortir un petit peu juste des chiffres et des écrans pour prendre un petit peu plus en compte le ressenti de ses pilotes. Je pense que c'est ce qui a fait beaucoup de mal à Ferrari sur la première partie de saison. Et là, j'ai peur que Ferrari soit rentré dans un cercle vicieux où, avec toute cette panique qu'il y a eu depuis 6 mois maintenant, finalement, on s'attarde encore plus sur les chiffres, sur essayer de s'accrocher à des choses rationnelles, alors que parfois en F1, il faut aussi avoir un petit peu de ressenti de feeling.
Alors, on a noté 3 points sur lesquels il faut que Ferrari change pour aller vers la victoire. D'abord, le premier point, c'est écouter les pilotes et écouter Charles Leclerc. Quand il dit que ses pneus fonctionnent, c'était le cas en Hongrie. La meilleure idée, c'est peut-être de lui dire, est-ce que tu penses que c'est mieux de les changer ou pas? Le pilote, lui, il sait. Il a un ressenti que personne d'autre ne peut avoir. Ça a été quand même étonnant de voir que il essayait de passer le message quand même, Charles, que ouais, ça allait bien. On l'a pas écouté.
Oui, et c'est pas la première fois en plus. Mais là, c'était effectivement flagrant parce qu'il y a eu de longs échanges radio entre Charles Leclerc et son Muret. Et finalement, Ferrari a décidé de rester sur son choix, à savoir mettre ses pneus durs qui ne fonctionnaient pas et qu'on avait vu sur Alpine. Donc oui, l'un des axes de progrès, c'est faire confiance à ses pilotes, que ce soit Charles Leclerc, qui est théoriquement le leader de l'écurie, aussi Carlos Sainz, qui a été capable d'avoir un bon ressenti, on l'a vu en France notamment. Donc si on arrive à voir ce changement-là déjà, ça prouvera que Ferrari a appris de ses erreurs et surtout à réussir à remettre des choses à plat durant cette trêve.
Et alors, on ne s'en prend pas à Mattia Binotto personnellement ou à Iñaki Rueda ou même au staff de Ferrari dans son ensemble. Charles Leclerc aussi est peut-être aussi un petit peu responsable à un moment. C'est lui qui est au volant, donc c'est lui qui doit dire non, je veux continuer. Quand on dit que la Ferrari doit écouter ses pilotes, c'est peut-être aussi à ses pilotes, et particulièrement à Charles Leclerc, parce que Carlos Sainz, manifestement, il n'a pas trop de problèmes pour se faire entendre, mais c'est peut-être aussi à Charles Leclerc, finalement, de parler un petit peu plus haut pour se faire entendre.
Absolument, c'est aussi la marque d'un champion, c'est de savoir se faire entendre, savoir imposer ses idées. On l'a vu avec Hamilton depuis de très longues années chez Mercedes. On l'a aussi vu avec Verstappen, bien avant qu'il soit champion du monde, durant ses années de lutte contre Mercedes, justement. Donc oui, à Charles Leclerc de s'imposer, maintenant qu'il a un matériel qui doit lui permettre d'être champion du monde, de vraiment s'imposer auprès de la Scuderia.
Donc, un, écouter les pilotes. Deux, d'une manière générale, faire simple. Pourquoi? Parce que la Ferrari est sans doute la meilleure voiture du plateau. Avec Charles Leclerc, ils ont un des deux meilleurs pilotes du paddock. Donc, sur le papier, ça doit le faire, normalement. Et on a vu que régulièrement, en fait, on essayait de faire des astuces stratégiques, un petit peu à la Red Bull, un petit peu à la Mercedes.
De trop anticiper.
Oui, voilà, à trop regarder ce que font les autres, alors qu'il faut rester concentré sur ce qu'on a comme élément.
Oui, parce que Ferrari se comporte un peu comme elle a dû se comporter sur la dernière saison, notamment 2020-2021 qui ont été évidemment compliquées. Elle se comporte encore comme un outsider,
un challenger.
Il faut réussir à se comporter comme un leader, vraiment. L'écurie numéro 1, ça peut être Ferrari. Alors, les écarts sont infimes avec Red Bull. Mais il faut que Ferrari réussisse à rester fidèle à son plan et surtout à arrêter d'essayer d'anticiper ce que va faire Red Bull, à ne pas tomber dans les pièges aussi tendus par Red Bull et Mercedes. Voilà, c'est un apprentissage. Je pense que la première partie de saison a largement permis de faire le tri là-dedans et de se rendre compte que finalement Red Bull et Mercedes jouent beaucoup sur ça. Donc c'est aussi un axe qu'on espère voir améliorer durant sa deuxième partie.
Et c'est intéressant ce que tu faisais comme référence à 2020-2021, époque où Ferrari n'avait pas la meilleure voiture. Donc les undercuts, les paris stratégiques, c'est valable quand sur le papier, on ne peut pas s'imposer. Mais quand on a la meilleure voiture et un pilote qui est capable de l'emmener à l'arrivée, ce n'est pas à vous, finalement, de faire des paris. Vous, il faut donner le ton. Absolument. Et puis bah, c'est aux autres d'essayer de
trouver une faille.
Voilà, de trouver une faille dans votre stratégie. Donc, deuxième point, faire plus simple. Troisième point, Julien, qu'on voulait évoquer pour que Ferrari parvienne à gagner cette dernière partie de saison, se concentrer sur les passages au stand, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu une dégradation au fur et à mesure des Grands Prix, au fur et à mesure que les problèmes s'accumulaient, ben, les passages au stand finalement ont été le témoin de ces difficultés. C'est toujours un marqueur fort, les passages au stand pour une équipe de Formule 1. D'abord parce que les Grands Prix peuvent se jouer, la victoire peut se jouer dans ces secondes perdues au stand. Et c'est aussi un marqueur de la lucidité, de la pression. Et les mécanos, chez Ferrari, les mécaniciens, ils sont littéralement écrasés par la pression. Ça, c'est une information qu'on me donne régulièrement de gens qui sont vraiment dans le paddock, même dans la voie des stands. Il y a une pression dans les regards quand ils savent que la voiture va arriver, qu'on ne ressent pas dans les autres équipes. Et ça se traduit, Julien, par des temps où la voiture est immobilisée au stand, des temps moyens où la voiture est immobilisée au stand, qui sont beaucoup plus longs que chez Red Bull.
Ouais, on vous a sélectionné 5 Grands Prix où vraiment Ferrari a été complètement dépassé. Et tu l'as parfaitement résumé, Gilles. Voilà, ces 5 Grands Prix, Émilie-Romagne, Miami, Azerbaïdjan, Canada, France, vous voyez les écarts énormes entre les temps moyens d'immobilisation de Red Bull et de Ferrari. France, on se souvient de la catastrophe
pour Sainz.
D'autres grands prix où ça aurait dû se passer beaucoup plus normalement, le Canada, Miami notamment, où là aussi il y a des écarts qui sont importants.
À plus de 4 secondes d'immobilisation chez Ferrari alors qu'on est à 2 secondes 4, 2 secondes 5 pour Red Bull.
Et d'autant que là ça peut paraître court, on se dit 1-2 secondes finalement sur l'entièreté d'une course, c'est pas grand chose. Et bah si, parce que les performances de Red Bull et de Ferrari sont parfois si proches que ces 2 secondes là peuvent permettre de faire partir un pilote devant ou derrière l'autre et ça change tout. Notamment sur la stratégie. Donc c'est encore une fois un cercle vicieux. Vous ratez votre stratégie, donc vous ratez votre passage au stand, donc vous empirez derrière ce que vous faites pour vos réflexions stratégiques. Il faut que Ferrari essaye de retrouver un petit peu de sérénité là-dessus, parce que c'est vraiment aussi, tu l'as dit, un marqueur hyper important sur la sérénité qui règne chez Zunicki.
Alors on l'avait évoqué juste après le Grand Prix de Hongrie, on se demandait avec Stéphane Vrignot si on pouvait rattraper cet écart. Il y a 80 points d'écart hein, désormais entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Julien, ton sentiment, est-ce que Charles Leclerc peut revenir, peut inquiéter le Néerlandais champion du monde en titre?
Je dirais non, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que je ne vois pas Verstappen, ni Red Bull d'ailleurs, s'écrouler sur la deuxième partie de saison. Je pense que Verstappen est tout à fait capable maintenant de gérer. Et on a vu d'ailleurs une vraie nouvelle approche dans son pilotage à Verstappen depuis qu'il est champion du monde. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que Ferrari va une nouvelle fois être confronté pas mal de pénalités. On évoque déjà pour le Grand Prix de Belgique qui aura lieu ce week-end un possible départ de fond de grille pour Charles Leclerc parce qu'il manque beaucoup de pièces moteurs à renouveler. Donc pour toutes ces raisons, et puis je ne suis pas sûr, tu évoquais Mercedes, l'arbitrage de Mercedes. J'ai plutôt tendance à penser que ce type d'arbitrage profite plutôt à celui qui est leader qu'à celui qui est chasseur.
Tu as tout à fait raison. Voilà donc pour Ferrari. On verra. Alors, c'est un peu prétentieux hein, d'avoir énuméré comme ça les points sur lesquels la Ferrari doit progresser. On verra. Imagine qu'ils améliorent tout ça et qu'ils arrivent à retourner la situation. On pourra dire « Ah ben, on l'avait dit !»
On a participé.
Voilà. Et puis, si ce n'est pas le cas, ben, on ne dira rien. On effacera les enregistrements et on ira absolument tous les propos que vous venez d'entendre. Le deuxième axe qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui en prévision du Grand Prix de Belgique de Formule 1, eh bien c'est le Piastri Gate, en se demandant à qui la faute. D'abord, rapidement, on va revenir sur les faits. On s'était quitté après la Hongrie dans l'idée que Oscar Piastri succéderait à Fernando Alonso chez Alpine et que tout irait au mieux dans le meilleur des mondes chez Alpine, sauf que l'Australien a indiqué qu'il ne roulerait pas pour Alpine en 2023. Vous voyez la séquence, hein. Sébastien Vettel annonce le 28 juillet, donc c'est le jeudi avant le Grand Prix de Hongrie, qu'il va prendre sa retraite. Le lundi, juste après, quelques heures, hein, à peine après le Grand Prix de Hongrie, Alonso annonce qu'il remplace donc Sébastien Vettel chez Aston Martin. Le lendemain, bah, Alpine annonce logiquement Piastri en 2023 dans le baquet de Fernando Alonso. Et quelques heures après seulement, le tweet complètement fou d'Oscar Piastri qui dit bah non, mais moi je suis pas au courant, non, non, je ne roulerai pas. Le tweet se termine par je ne roulerai pas pour Alpine en 2023.
On avait d'ailleurs déjà senti un petit peu le roussi quand Alpine annonce Piastri et qu'il n'y a dans le communiqué de presse
aucune
déclaration d'Oscar Piastri,
ouais, là,
qui est rarissime, voire
jamais.
Voilà, exactement.
Donc le 4 août. Bah là, il y a une fuite et on apprend qu'il y avait un pré-contrat entre Oscar Piastri et McLaren, donc l'équipe dirigée par Zak Brown. Et le 8 août, le CRB, donc l'organisme qui a été mis sur pied par la Formule 1 pour essayer d'éviter le genre de problème qui avait surgi avec, à l'époque, Michael Schumacher et Benetton et Jordan, le CRB, donc le Bureau de reconnaissance des contrats de la FIA, indique que les deux contrats qu'a signé Piastri, et avec Alpine et avec McLaren, sont valables. En gros, la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que bah, c'est Otmar Szafnauer qui le dit. Ça va à 90%, ça va se juger devant les tribunaux. Alors, la faute à qui ? Julien, je te propose d'abord d'attaquer, on évoquait Otmar Szafnauer, le patron d'Alpine, bah, la déclaration de Otmar Szafnauer qui évoque la loyauté. Je te laisse la lire ?
Absolument. Vas-y. Je m'attendais à plus de loyauté de la part de Piastri. Il devrait avoir plus de loyauté envers l'équipe qui s'est occupée de lui, qui l'a même mené vers le championnat du monde et surtout qui, depuis un an, le met dans une Formule 1 pour le préparer, pour lui faire apprendre les circuits. J'attendais plus de loyauté de la part d'Oscar que ce dont il a fait preuve. J'ai commencé en Formule 1 en 89 et je n'ai jamais rien vu de tel. Et ce n'est pas une question de Formule 1, c'est une question d'intégrité en tant qu'être humain. Ça, c'est une déclaration d'Otmar Szafnauer dans le journal espagnol El Confidencial.
Voilà, c'est des mots forts. On parle de loyauté. Ça fait toujours un petit peu bizarre quand on parle de loyauté en sport et dans un sport où il y a beaucoup d'argent et où...
Ou c'est chacun pour sa peau.
Voilà, est-ce que la loyauté... Est-ce que c'est vraiment... Et, tu vois, je ne sais pas comment formuler la phrase. Est-ce que ce n'est pas employer un grand mot que de parler de loyauté? C'est peut-être une approche un petit peu différente, en fait.
Oui, et puis moi, je pense que c'est surtout une manière de se raccrocher aux branches, parce que Alpine, pour moi, je sais que ce n'est pas tout à fait ton avis, mais on va en discuter, mais... Pour moi, Alpine est fautif de A à Z pour la simple et bonne raison que ça fait des mois et des mois qu'il souffle le chaud et le froid concernant l'avenir et de Fernando Alonso et d'Oscar Piastri. Et bah, ces deux pilotes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur destin en main et ils ont fait leur choix pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau à la fin de la saison. Donc pour moi, oui, c'est une manière déguisée de se raccrocher un petit peu aux branches, de trouver une porte de sortie, de dire écoutez, nous on avait des accords, on pensait que c'était clair.
Et puis, on a, en préparant cette émission, tu as fait un parallèle avec un autre grand sportif très jeune, avec un énorme potentiel, qui finalement, très très vite, a pris la main sur sa destinée sans s'en remettre à ses employeurs, à ses organisations. C'est une nouvelle façon de voir sa carrière quand on est un jeune athlète.
Je suis convaincu de ça. J'ai vraiment la sensation que ce soit en Formule 1 et notamment dans d'autres sports comme le football avec Kylian Mbappé, aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de fond chez les jeunes sportifs qui ont ce talent-là, c'est-à-dire un talent hors norme, comme Mbappé, comme Piastri en Formule 1, qui décident de vraiment prendre en main tout ce qu'ils peuvent prendre en main, que ce soit leur avenir, que ce soit leur contrat, que ce soit leur image. Et en cela, je pense que Alpine est un petit peu responsable parce que c'était anticipable, parce que c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs saisons. Et là, Piastri, on savait qu'il était très sûr de lui, on a vu ce qu'il a fait dans les formules de promotion F3, F2, notamment où il était champion. Donc fallait s'y attendre, fallait s'attendre à ce que Piastri ne fasse pas les choses comme les autres pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas un jeune pilote comme les autres, tout simplement. Et on peut faire le même constat avec Alonso. Pour moi, j'ai du mal à imaginer que Alpine ne soit pas au courant que Fernando Alonso est un pilote un petit peu orgueilleux, pour le dire gentiment, et que lui, il a bien vu qu'il était capable d'avoir des bons résultats, qu'il était capable de faire des performances. Il a fait des choses assez extraordinaires quand même cette saison, sur cette première partie de saison, notamment en qualification. En course, il a été un petit peu plus malchanceux. Je ne peux pas croire que Alpine se sentait capable de jouer avec le feu avec Alonso sans qu'il y ait des conséquences derrière. Alonso est un pilote orgueilleux, et d'ailleurs, on l'a vu après ces annonces-là, où Alpine avait un petit peu de mal à rentrer en contact avec Alonso. En fait, Alonso, on le voyait sur les réseaux sociaux, il était en train de s'amuser chez lui à Oviedo. Donc oui, Alonso est un pilote orgueilleux, il faut toujours se méfier d'un pilote orgueilleux. Et voilà, c'est ce qui s'est passé.
Ouais, alors, je suis... En fait, je ne vais pas prendre la défense d'Alpine. Il y a eu quand même une faute de la part d'Alpine. C'est sans doute un petit manque de clairvoyance, mais cela dit, j'ai vu aucun média alerter ou en tout cas attirer l'attention sur la situation. On sait bien, on a compris que du côté de chez Alpine, on essayait de gagner du temps pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire, parce qu'on voulait absolument mettre Oscar Piastri dans la voiture en 2023. Il y avait un vrai dilemme. Et en même temps, chez Alpine, on voyait bien tout ce qu'apporte Fernando Alonso à l'équipe française, sachant que Esteban Ocon est sous contrat jusqu'en 2024. Donc ce baquet-là, de toute façon, il est hors discussion. Ça y est, c'est fait et c'est coulé dans le marbre. Donc derrière, dans le bronze, parce que le marbre, ça se coule pas trop.
Dans le béton.
Bref, on ne fait pas un podcast pour le roi Merlin, mais vous aurez compris, quoi, c'était du solide. Et donc, ça se jouait entre les deux. Et évidemment, quand on s'appelle Fernando Alonso, on ne peut pas supporter l'idée d'être en ballotage avec un garçon qui n'a jamais mis les pieds sur une grille de départ de Formule 1. Ça se comprend quand on est double champion du monde, et ça se comprend d'autant plus quand on s'appelle Fernando Alonso et qu'on est une véritable idole dans son pays. Et là où je pense qu'il y a eu un petit manque de clairvoyance du côté de chez Alpine, c'est que on ne s'est pas rendu compte que Fernando Alonso a un très bon ami qui s'appelle Mark Webber, qui est l'agent d'Oscar Piastri. Et en fait, en jouant un petit peu à essayer de gagner du temps entre Piastri et Alonso, on a juste oublié que les deux parties, eux, se parlaient. Ce sont des copains, donc ils se disent où ils en sont. Et quand, vous savez, quand on a une table de poker et qu'on cherche un pigeon, quand on ne trouve pas le pigeon, bah, c'est le pigeon, c'est vous. Et c'est un petit peu la situation d'Alpine dans cette histoire.
Rappelons d'ailleurs que quelques jours, j'ai plus le nombre de jours exact en tête, mais juste avant que Alonso signe chez Aston Martin, il déclare qu'il n'est pas inquiet pour sa prolongation chez Alpine et qu'il estime que ça se fera en quelques jours, qu'il n'y aura pas besoin de discuter bien longtemps pour pouvoir prolonger son contrat.
Ah, c'est ça qui est fou. Est-ce qu'il savait que Vettel allait partir? Est-ce qu'il savait qu'il allait chez Aston Martin? Ça, il faudra un certain temps pour le savoir. En revanche, qu'on n'ait pas sécurisé un plan B chez Alpine, c'est peut-être là qu'on a été un petit peu fautif. On s'est peut-être vu un peu beau, en fait, en se disant qu'on était dans une situation absolument parfaite. On avait sous le coude un pilote qui, certes, a passé les 41 ans, mais qui donne toujours le meilleur qu'un employeur puisse espérer. Et de l'autre, une véritable pépite qu'on allait placer dans une équipe, dans une autre équipe, pour lui faire faire ses gammes, et puis ensuite l'exploiter quand il aurait été vraiment, vraiment prêt, à la manière d'un George Russell. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il faudra en tirer les conséquences, hein, du côté de chez Alpine, parce que mine de rien, ces cellules qui doivent gérer les contrats des jeunes pilotes, alors on ne sait pas comment ça va se passer maintenant. Très probablement, va y avoir, ça ira, je ne pense pas que ça ira jusqu'au tribunaux, les deux parties, enfin les trois parties, McLaren, avec qui Oscar Piastri donc aurait un contrat, Alpine et l'entourage d'Oscar Piastri, tout ce beau monde va se rencontrer maintenant. Et puis on va voir comment on s'arrange, qui ont des dommages, qui fait rouler qui. Parce que, allez, on y va. Parlons maintenant. Qui pour remplacer Oscar Piastri? D'abord, est-ce que Est-ce que Alpine peut obliger Piastri à rouler pour Alpine? C'est bizarre quand même.
Impossible, c'est impossible. Et d'ailleurs, Zaffnauer l'a déjà sous-entendu. Faites pas rouler de force un pilote qui n'a pas envie de rouler chez vous. Ce qui est largement envisageable, c'est effectivement une compensation financière, soit de McLaren, probablement de McLaren. Mais oui, là, Alpine va probablement devoir se tourner vers un autre pilote. Ricciardo, possiblement,
C'est en tout cas
puisque c'est le
la
pilote qui se
hypothèse
retrouve.
la plus logique, puisqu'il se retrouve sur un siège éjectable.
Ce serait donc un retour, puisque Ricciardo avait quitté Renault, ex-Alpine, pour McLaren. Il y a d'autres pistes. On évoque, alors c'est fondé sur peu de choses, mais Mick Schumacher, qui lui quitterait Haas pour aller chez Alpine. Encore une fois, on en est très loin. D'autres possibilités. Gasly, c'est fortement improbable. On peut en parler, Gilles, mais je sais que c'est le fantasme de beaucoup. Il faut quand même préciser que les contrats chez Red Bull, les contrats de pilotes chez Red Bull, sont un petit peu plus béton. On en
D'ailleurs,
parlait,
faudrait peut-être leur demander conseil.
on en parlait de béton que ceux d'Alpine, pour la simple et bonne raison qu'il y a un fonctionnement qui est spécifique. C'est une filiale qui est gérée par Helmut Marko. On passe toutes les semaines à faire des points sur les jeunes pilotes, sur les pilotes du constructeur Red Bull. Donc rompre le contrat Red Bull, j'ai du mal à l'imaginer, et j'ai du mal à imaginer Pierre Gasly chez Alpine.
Ben non, mais après, c'est finalement, on ne rompt pas un contrat, on négocie en fait la fin d'un contrat. Ça serait évidemment exceptionnel d'avoir deux pilotes français chez Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Alors, on entend souvent que les deux peuvent pas s'entendre parce que ben ils ont
Guerre
côtoyé les
passif.
mêmes pistes de karting et ils ont fait toute leur classe ensemble. Des équipes où les pilotes peuvent pas s'entendre,
Il y en a quelques-unes. Il y en a
vous
eu quelques-unes.
inquiétez pas, il y en a plein. L'histoire, c'est pas de savoir s'ils vont partir en vacances ensemble. L'histoire, c'est de savoir si éventuellement Pierre Gasly pourrait négocier pour venir chez Alpine. Est-ce que Pierre Gasly a lui aussi envie de casser un contrat, en tout cas de négocier pour mettre un terme à son contrat pour aller chez Alpine? Ça aussi, c'est une des questions. Mais allez, ouvrons la boîte de, puisqu'on a ouvert la boîte de Pandore. Il y a un autre Français qui frappe à la porte de la Formule 1 et qui pourrait aussi venir renforcer les rangs d'Alpine, c'est Théo Pourchaire. Je crois savoir que tu es en contact avec lui, que y aura bientôt une interview de Théo Pourchaire sur le site d'Eurosport. Ça peut être une piste intéressante.
Ouais, c'est une piste intéressante, mais très compliquée, parce que Pourchaire est lié à Sauber, c'est un produit de l'Académie Sauber, donc lié à Alfa Romeo. Ça reste son objectif principal. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne ferait pas de deuxième saison en Formule 2, qu'il soit champion ou non. Il est actuellement deuxième du championnat. Son objectif principal, c'est effectivement la F1. Si F1 il y a, ça sera probablement chez Alfa Romeo, à la place de Guanyu Zhou. Alpine, c'est fortement improbable et je ne suis même pas certain qu'Alpine, dans sa situation actuelle, soit capable de promouvoir un jeune pilote. Je pense qu'on va essayer en plan B, d'aller chercher un pilote d'expérience.
C'est pour ça qu'on en revient à Daniel Ricciardo, qui était le premier nom qu'on avait évoqué. On s'y attarde une minute, Julien, si tu veux bien. Daniel Ricciardo, qui est un ancien de chez Renault, qui reviendrait donc, hein, puisque Alpine, c'est l'ancienne équipe Renault. Ça fait toujours bizarre, mais des pilotes qui reviennent, il y en a eu, hein, Kimi Raikkonen chez Ferrari, Fernando Alonso chez Alpine, c'est un retour. Et puis là, il y a un truc dont on ne pourra pas douter, c'est que si on remet Daniel Ricciardo dans le baquet d'une Alpine, lui, il sera motivé à fond pour se battre contre McLaren.
On aura une rivalité très sympa pour ce qui sera probablement la quatrième place du championnat, puisque Mercedes est un petit peu dans une cour à part. Ce qui est sûr, c'est que, de mon avis, c'est la meilleure des solutions, en tout cas la moins pire, que ce soit pour Alpine ou pour Ricciardo, parce que Ricciardo pourrait se retrouver sans baquet de Formule 1. Il y aurait des options chez Haas, notamment.
Ouais.
Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution pour Ricciardo. Et Alpine, on a cité des noms. Ricciardo, il y a quand même une vraie expérience, même si depuis 2 ans, c'est très très compliqué chez McLaren, qu'il est un petit peu laminé par Lando Norris. Ça reste un pilote qui a une certaine cote et qui est capable d'être rapide.
Des pilotes qui ont 8 victoires à leur compteur en Formule 1 et qui peuvent être libres, puisque son employeur veut s'en séparer, il n'y en a pas beaucoup, et c'est ce qui fait un petit peu la force de Daniel Ricciardo en ce moment. Ce qui est certain, c'est toujours compliqué de dire ce qui est certain, parce qu'on peut régulièrement être contredit dans ce
Ce
formidable
qui est
monde
censé être
de
certain.
la Formule 1. Oui. ce qui paraît logique maintenant, voilà, on va le dire comme ça, ce qui paraît logique, c'est que Alpine va prendre son temps. Là, on s'est empressé quelque part. C'était pour essayer, voilà, d'effacer l'affront que venait de faire Fernando Alonso. On s'est empressé de nommer Oscar Piastri. Bon, on s'est pris une deuxième fois la porte dans la tête. Là, finalement, il n'y a rien d'urgent pour Alpine. Fernando Alonso va aller jusqu'au bout de la saison. Pendant un moment, on a dit qu'il allait se faire sortir. Non, non, certainement pas. Il faut aller jusqu'au bout. Et Fernando Alonso, c'est un pro. Il va donner son maximum jusqu'au bout. On est d'accord là-dessus.
Je pense que son objectif, ce sera même de donner des regrets à Alpine. Donc oui, là-dessus, j'ai aucun doute.
Et à mon avis, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir le nom de celui qui sera aux côtés d'Esteban Ocon sous les couleurs d'Alpine en 2023. Ce qu'on sait, de toute façon, et on va attaquer le troisième acte.
Là, il n'y aura pas de retournement de situation.
Du volant aujourd'hui, il n'y aura pas de retournement de situation pour Sébastien Vettel, qui a donc annoncé quelques jours avant le Grand Prix de Hongrie qu'il tirait sa révérence, qu'il se retirait de la Formule 1 à 35 ans. Vettel, c'est 290 départs en Grand Prix, 53 victoires, 122 podiums, 57 pole positions et évidemment 4 titres de champion du monde. Donc c'est une sorte de monument de la Formule 1 du 21e siècle qui va disputer ses 9 derniers Grands Prix là, dans les semaines qui viennent. Alors évidemment, on a beaucoup parlé en Hongrie de ce qui s'est passé chez Ferrari, de l'arrivée de Fernando Alonso, et ben, on en était un petit peu resté là. Et ben, au retour, on a quand même envie de voir ce que vaut la carrière de Sébastien Vettel sur l'historique, la fresque historique de la Formule 1. Alors on s'est permis avec Julien Pereira d'établir un top 10 des pilotes de Formule 1. Alors c'est totalement subjectif, hein, Julien, on est d'accord là-dessus ?
C'est subjectif, on a essayé d'être cohérent et surtout de trouver un consensus. On n'était pas forcément d'accord au début.
Non.
On a trouvé un consensus intéressant.
Voilà, mais si vous, de votre côté, vous décidez de faire un top 10 des pilotes de Formule 1 et que vous n'avez pas le même que nous...
On est ouvert à la discussion.
Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a bon ou qu'on a tort. C'est vraiment une question de sensibilité. On commence le numéro 10, Nelson Piquet, senior, je précise, oui. Quand même, triple champion du monde en 81, 83, 87. Personnage sulfureux. Je ne fais pas référence à la déclaration qui a ressurgi sur Lewis Hamilton, qui était bien triste et qui est probablement une maladresse, très très grosse maladresse de langage de la part du Brésilien. C'était un personnage rugueux. Hein, enfin, être le coéquipier de Nelson Piquet, c'était dur à l'époque. Demandez donc à Nigel Mansell, il a failli en perdre sa moustache. mais c'est un pilote qui a réussi à être champion du monde. Ça a été le premier pilote champion du monde à bord d'une Formule 1 turbo. Et je trouve que moi, je mets toujours un petit plus à un pilote qui arrive à être sacré avec une nouvelle technologie. Parce qu'il faut s'adapter. Faut trouver la nouvelle façon d'exploiter et voilà pourquoi j'ai insisté pour que Nelson Piquet senior soit dans notre top 10, il sera 10e.
On a aussi voulu valoriser le fait qu'il ait évolué dans une époque ultra concurrentielle, ouais. Peut-être même l'âge d'or de la Formule 1,
peut-être
le début de l'âge d'or de la Formule 1. Et ça c'était important pour nous.
Exactement.
9e, on a choisi Jackie Stewart, lui aussi 3 titres de champion du monde. Mais finalement, Stewart, au-delà d'un talent qui était exceptionnel, on a aussi voulu mettre en avant l'impact qu'il a eu sur son sport. Il y a vraiment eu un avant et un après Stewart sur le plan de la sécurité, évidemment. Les casques intégraux, les barrières de sécurité, les ceintures aussi. Tout ça, il a réussi à faire valoir, à faire entendre son discours, parfois de manière avec des grèves, avec des choses fortes. On a un petit peu tendance, enfin, c'est même pas une tendance, c'est une réalité, à faire un avant-après accident de Senna à Imola en 94. En réalité, il y avait déjà eu d'énormes progrès faits dans le sillage de Jackie Stewart. Donc, rien que ça, et évidemment un palmarès très très important, très fourni, avec ses 3 titres de champion du monde, ça mérite une place dans le top 10.
Ouais, exactement, puis il y a un petit côté aussi cocorico, hein. Il avait été champion du monde avec Matra, ça avait été une aventure technologique assez exceptionnelle pour le premier titre de Jackie Stewart. Numéro 8 dans notre top 10 des pilotes de Formule 1, c'est un homme qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Fernando Alonso, avec ses 2 titres de champion du monde en 2005 et en 2006. Évidemment, c'était chez Renault, 19 saisons, 19e saison en ce moment en Formule 1 pour Fernando Alonso, 32 victoires. C'est un pilote qui déjà un caractère assez exceptionnel, hein. On l'a vu, c'est un pilote qui, j'avais entendu ça une fois, j'avais trouvé que l'expression était très très bonne, roule plus vite que sa voiture ne le permet. Et il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est un garçon qui est un peu poussé vers la sortie, qui va immédiatement faire le Mans, qui vraiment ébahi ses coéquipiers. On a reçu Sébastien Buemi dans les Fous du Volant qui nous disait mais les relais de Alonso au volant de la Toyota, c'était assez exceptionnel, qui gagne deux fois le Mans, qui est champion du monde d'endurance, qui va faire Indianapolis, qui va faire le Dakar. C'est un pilote un petit peu old school, qui va toucher à tout. C'est un vrai passionné de la chose mécanique.
Ouais, alors j'ai le droit de le dire, Gilles, moi j'aurais aimé le voir un petit peu plus haut.
Ouais.
C'était compliqué parce que devant, il y a des très très grands pilotes, mais moi, j'ai une vraie affection pour le personnage Alonso et pour le pilote, surtout Alonso, parce que c'est aussi la fin de l'ère Schumacher. On en reparlera un petit peu plus tard, mais il a vraiment marqué son temps, même s'il n'y a que deux titres de champion du monde au bout. On a quand même la sensation que s'il avait pu faire les bons choix de carrière au bon moment, il aurait un palmarès bien plus fourni. Et puis oui, tu l'as dit, il y a ce côté pure racer où vraiment, c'est l'un des pilotes ultimes. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres dans ce top 10, mais globalement, si vous construisez une écurie et que vous voulez choisir des pilotes, quand vous prenez Fernando Alonso, vous avez quand même quelques certitudes.
Ouais, c'est ça. Lewis Hamilton a dit récemment que Fernando Alonso était le plus coriace de ses coéquipiers. Bon, voilà, quand on s'appelle Lewis Hamilton, on doit avoir quand même une petite expérience et une petite légitimité pour juger. Numéro 7 de notre top 10 des pilotes de Formule 1, et bien justement, c'est Sébastien Vettel. On l'a mis à cette 7e place. Sébastien Vettel, quadruple champion du monde 2010, 2011, 2012, 2013. Évidemment, au sein de cette équipe Red Bull, il n'y a que sous cette enseigne qu'il a été champion du monde. Moi, c'est ce qui m'a fait dire qu'il ne fallait pas le mettre plus haut. Bon, c'est déjà bien. Bon, il est arrivé alors, en passant par BMW et puis en explosant littéralement chez Toro Rosso, première pole, première victoire pour l'équipe italienne, dans cette petite équipe italienne. Il a jamais laissé indifférent Sébastien Vettel.
Oui, absolument. Moi, je trouve qu'il y a un résumé qui est intéressant. On l'a adoré quand il était jeune, et avec ce qu'il a fait chez Toro Rosso, tu l'as expliqué. On a quand même beaucoup aimé le détester chez Red Bull parce qu'on a beaucoup
trop
de mal avec ces périodes de domination qui sont longues. Et je dirais même qu'on oublie qu'il y a quand même eu des saisons qui ont été très serrées, avec Fernando Alonso notamment, 2010-2012, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, on les oublie parce que oui, il y a cette ère Red Bull qui écrasait tout. Il y avait cette nouveauté, ce diffuseur Red Bull qui avait fait des merveilles. Et puis finalement, on l'a redécouvert après, que ce soit chez Ferrari et même dernièrement chez Aston Martin. On a redécouvert le personnage qui finalement est vraiment un pilote attachant, qui est aussi évidemment un pilote talentueux. On ne gagne pas 4 titres juste parce qu'on a une bonne voiture. Mais oui, il manque une rivalité forte, il manque un titre chez une autre écurie. Je pense que s'il y avait eu un titre chez Ferrari, ça aurait changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Ça, c'est sûr.
Il n'y en a pas eu.
Ça, c'est
mais,
sûr.
Mais oui, on n'oubliera pas le personnage Vettel. Et je trouve même ça dommage qu'on ait découvert ce Vettel qui porte des messages, qui porte des valeurs, qui surtout se bat pour ces messages-là. En F1, j'aurais aimé qu'on le voit soit plus tôt, soit un petit peu plus longtemps.
Oui, ça c'est sûr, un petit peu plus tôt au moins, c'est clair. Bon, Sébastien Vettel qui a été 4 fois champion du monde de rang, ce qui est arrivé très très rarement dans l'histoire de la Formule 1. Fangio, Schumacher et Hamilton sont les 3 autres pilotes à avoir réussi cet exploit. Alors, moi je l'ai un petit peu moins admiré à son époque de chez Toro Rosso parce que j'étais assez proche de Sébastien Bourdais, et il faut dire que le Français a passé quand même de mauvais moments au sein de cette équipe Toro Rosso, parce que vous êtes toujours comparé à votre coéquipier et que Sébastien Vettel était quand même tout de suite un pilote qui était ultra, ultra rapide. Il a été recordman, le plus jeune pilote à avoir inscrit un point au championnat du monde de Formule 1, plus jeune pilote poleman, plus jeune pilote vainqueur de Grand Prix. Il a été ensuite effacé des tablettes. En tout cas, Max Verstappen lui a succédé au niveau de ses records de précocité, mais effectivement lui aussi a buté ensuite pour aller chercher un titre dans une autre équipe. On pense notamment à Ferrari. Pour moi, la vraie fin de carrière de Sébastien Vettel, c'est le Grand Prix d'Allemagne 2018, où Hamilton part, je crois qu'il est 14e sur la grille, où tout est bon en fait pour Vettel et il sort de la piste et quelque part, voilà, à partir de ce moment-là, on se dit
bon, il sera plus
champion du monde. Et il sera donc 7e de notre top 10.
6e, Niki Lauda. On peut, par quoi on commence ? Il y a tellement de choses à dire. Il y a
personnage.
Des titres dans le champion du monde. Il y a un personnage extraordinaire qui a inspiré des scénaristes de films, notamment, pour évoquer le film Rush. Il y a cet accident qui est l'un des plus grands miracles de l'histoire de la F1 et même de l'histoire du sport. Je vous invite à aller lire un grand récit de Maxime Dupuis sur Eurosport.fr qui est très sympa. Et puis, il y a le pilote aussi qui était un vrai pilote calculateur, qui savait tout faire, qui connaissait tout de sa voiture, qui a été capable de remettre Ferrari au devant de la scène.
Ouais.
Voilà, pilote complet. Et finalement, je trouve même ça dommage qu'on associe plus Lauda à cet accident plutôt qu'au reste de sa carrière et à ses accomplissements.
Exactement, oui, c'est vrai. Un vrai personnage, hein, Niki Lauda. Qui était dur après. Alors, est-ce qu'il était aussi dur que ça avant son accident qu'après ? Mais même après sa carrière de pilote, quoi. Il crée une compagnie aérienne. Il revient après chez Mercedes. C'est lui qui ramène Lewis Hamilton chez Mercedes. Enfin, c'est des gens qui ont une aura, un savoir-faire. Quand vous entendez des récits aussi de Alain Prost, qui l'a côtoyé chez McLaren. Prost a perdu un titre face à Niki Lauda chez McLaren. Et il est admiratif de Niki Lauda. Ça n'arrive pas souvent.
C'est aussi l'un des rares pilotes à avoir tenu tête à Enzo Ferrari. Il fallait bon caractère et bonne dose de courage pour y parvenir. Et oui, finalement, Enzo Ferrari l'a toujours mis dans une classe un petit peu à part. Il y avait ses pilotes coup de cœur, il y avait ses pilotes champions du monde avec qui il n'y avait pas vraiment de relation forte. Et puis, il y avait Niki Lauda qui était dans un espèce d'entre-deux parce qu'il était vraiment, vraiment à part.
Oui, exactement. Ensuite, on rentre dans le top 5 maintenant de notre top 10 des meilleurs pilotes de Formule 1. Eh ben, Juan Manuel Fangio est numéro 5. Alors, il a 5 titres de champion du monde, hein, l'Argentin. Alors, c'est difficile de parler du pilotage de Juan Manuel Fangio, déjà parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'images. Que bah, le premier de ses titres, d'ailleurs, tu vois, c'est un hasard, mais le premier de ses titres, c'était le 22 août 1954. Donc, il y a 68 ans, puisqu'on ne trahit pas de secret en vous disant qu'on enregistre ce podcast le 22 août 2022. Donc, c'est une date anniversaire pour Juan Manuel Fangio. Mais plus largement, c'est un homme qui a donné quelque part son nom à sa discipline. Vous parlez de foot, eh ben on va vous dire Pelé. Vous parlez de boxe, on va vous dire Mohamed Ali. Eh ben vous parlez de Formule 1, on va vous dire Juan Manuel Fangio parce que il y a quelque chose en plus.
Ouais, c'est finalement la première star de ce sport.
Oui.
Et puis c'est aussi un pilote qui a été champion du monde avec quatre écuries différentes. C'est un petit exploit, même un très grand exploit.
Ouais, clairement.
C'est les premières victoires de Mercedes. Et puis oui, c'est aussi l'expression tu t'es pris pour Fangio.
Exactement. Donc voilà pourquoi on a mis Fangio dans ce top 5. On l'a mis en 5e position et on l'a mis derrière Alain Prost, qui avait 4 titres et donc notre 4e au classement des pilotes. Alors, Alain Prost, bah là, pour le coup, je vais vous faire une confidence. Je suis né en 1975, donc moi, Alain Prost, c'est mon enfance. Évidemment, il est français et quand vous regardez les Grands Prix, que vous êtes môme, bah, vous êtes pour le français, même si on y reviendra. Parfois, c'est un peu compliqué. Mais c'est le professeur. C'est celui qui, un petit peu à l'école de Niki Lauda, analyse tout, prépare, sait faire l'impasse sur une qualification pour vraiment mettre sa voiture en configuration pour la course. Il a gagné des titres. Évidemment, il a fait partie de l'aventure Renault. Il a gagné des titres avec McLaren et avec Williams, donc aussi avec deux équipes différentes. Un garçon qui a été longtemps le recordman du nombre de victoires en Grand Prix aussi. On pensait que ça serait inatteignable, 51 succès en Formule 1. Incroyable, Alain Prost.
Oui, et puis difficile d'évoquer Alain Prost sans évoquer sa rivalité avec Senna. On ne va pas tuer le suspense en disant que Senna est un petit peu plus haut dans ce classement, évidemment. Mais finalement, cette rivalité qui est pour moi, encore une fois, la plus grande rivalité de ce sport et peut-être même du sport en général, Je trouve qu'elle le met en valeur aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas à l'époque où il était encore pilote de Formule 1, mais aujourd'hui, se dire qu'Alain Prost a été capable de rivaliser et de battre Ayrton Senna, ça vous classe quand même ce pilote qui avait un talent certain et qui surtout était capable de tout maximiser
Ouais.
avec sa précision, son approche de la course, son approche de la mécanique aussi. Il était très impliqué dans le développement. Donc, Prost, Senna, Senna, Prost, ils sont globalement inséparables. Mais quatre titres de champion du monde dans cette époque-là, qui
Aussi.
était extrêmement concurrentiel, ça en fait l'un des tout meilleurs.
Exactement. On passe au trio. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne
On
un,
donne
deux,
le
trois, et puis après,
3
on continue
et
de remonter. Non, allez, on fait le 3.
on
Le
fera plus
3.
de suspense sur le 1 et 2.
Alors, le 3, c'est Michael Schumacher, qui, donc, bah, avec 7 titres, hein, est troisième dans notre classement. Voilà, il est arrivé en Formule 1. Il y a eu le jour d'avant, Schumacher qui arrive et qui fracasse tout absolument au Grand Prix de Belgique d'ailleurs. Hein. Là aussi, c'est une forme de commémoration. Ensuite, ça va très vite, Benetton, et puis Ferrari. Et là, la Dream Team chez Ferrari avec Jean Todt et puis Brown, son prénom, mince,
Rosebrand.
Rosebrand, voilà, j'avais Zach, bah oui, forcément. Voilà. Le trio là, infernal de la Formule 1, c'est pareil qu'on a eu en détestation parce que ça gagnait tellement que ça en était même
Oui, et en
fatigant.
plus, c'était déjà avant Vettel, c'était finalement la première grosse Dream Team. Alors, il y avait eu Senna Prost chez McLaren à la fin des années 80, mais là, on avait vraiment une écurie qui gagnait tout, qui écrasait tout et qui assumait de tout écraser. On se souvient de ce Grand Prix d'Autriche. Avec Barrichello. Oui, c'est l'équipe et le pilote qu'on a adoré détester, mais c'était aussi un pilote vraiment hors norme, qui était un gigantesque poleman, qui était aussi capable de tout écraser en course. Lui aussi, on a pensé que ses records ne seraient pas battus. Finalement, ils l'ont été par Lewis Hamilton, mais personnage clivant pour ce qui s'est passé avec Villeneuve, pour ce qui s'est passé avec Hill, mais surtout un pilote hors norme,
Exceptionnel.
finalement,
Ouais.
exceptionnel.
Moi j'ai un souvenir, alors je sais plus quelle année, mais quand il vient percuter Coulthard et qu'il se retrouve sur trois roues sous la pluie à Spa et qu'il roule plus vite sur trois roues que ses concurrents
Et
qui ont
des grands
quatre
prix
roues.
aussi bouclés sans quatrième
Ouais,
rapport, ça
ouais.
c'était complètement dingue.
Voilà, donc Michael Schumacher est troisième de notre classement. Et c'est donc Ayrton Senna qui est à la deuxième place. On vous a dit, hein, c'est subjectif. Ayrton Senna deuxième, évidemment, trois titres pour le Brésilien avec cette grande rivalité, la grande rivalité de la Formule 1, celle qui l'a opposé à Alain Prost. Un artiste, un garçon un peu mystique, exceptionnel.
Ouais, Magic Senna,
Ouais.
c'est l'irrationnel. Il y avait Prost, le hyper rationnel,
Le professeur et Magic Senna.
et Senna qui faisait tout à l'instinct, qui était un pilote vraiment qui ne calculait pas, qui aurait probablement décroché plus de titres de champion du monde s'il n'y avait pas eu ce crash terrible à Imola. Et c'est finalement l'idole de, je vais donner un pourcentage, mais de 80% des pilotes qui sont arrivés après. Hamilton en est un. C'est l'idole suprême finalement
Ouais.
de ce sport et restera.
Sa disparition joue peut-être, renforce peut-être
Totalement.
ce rôle sans doute. Et je vous parlais voilà, du gamin que j'étais au début des années 80 et ce duel entre Prost et Senna. On était pour Prost parce que, bah, voilà, bêtement, parce que quand on est petit, bah, on se dit il est français, alors on est pour lui. Mais on n'arrivait pas à détester Senna parce que il était magique, il faisait des choses qui étaient assez incroyables. Et puis il y a eu aussi cette action, alors décidément c'est Spa, l'accident d'Éric Comas en 92 en essai. Le Français va percuter le rail à blanchiment, il perd connaissance et il reste le pied sur l'accélérateur. À cette époque-là, il n'y avait pas tous les systèmes de sécurité. Et Ayrton Senna s'arrête, descend de sa voiture alors que les débris sont encore en train de voler. Il était juste derrière et va couper l'électricité dans la voiture pour pas que ça explose, parce qu'un moteur à fond avec des dizaines de litres d'essence, ça pouvait exploser. Et puis qui maintient la tête de Éric Comas. Il y a des récits très très intéressants aussi de la part du Français qui était en piste le 1er mai 1994 quand Senna a disparu. Voilà, c'est tout ça qui fait que ce bonhomme laisse une empreinte assez exceptionnelle.
C'est peut-être le pilote pour lequel on a le plus de souvenirs, qu'il soit bon ou terrifiant. Ça dit quelque chose de Senna. On peut parler de ses pôles à Monaco, ses pôles sur un autre monde où il claque la pôle avec quasiment une seconde d'avance sur Prost.
C'est aussi l'époque, je te me permets de te couper, c'est aussi l'époque où il commence à y avoir des caméras embarquées où on voit bien finalement ce qui se passe dans la voiture. Ça aussi, ça joue au fait qu'on retient beaucoup ce qu'a fait Senna plutôt que ce qu'ont fait des garçons 10-15 ans avant comme Jackie Stewart. On n'a quasiment pas d'images embarquées à bord de la Matra. Il y a eu ce progrès qui a fait que d'un seul coup, on a vu ce qu'il était capable de faire dans les rues de Monaco. Avec cette voiture, il tenait le volant à une main. Enfin, c'était fou.
Et puis, on est obligé d'évoquer son don, parce que là, c'est vraiment un don sous la pluie.
Ah oui.
Probablement, en tout cas, là encore, c'est subjectif, mais le meilleur pilote de l'histoire sous la pluie, qui était capable de trouver des trajectoires complètement folles.
Et donc, le numéro 1 de notre classement des meilleurs pilotes de Formule 1, c'est Lewis Hamilton, mais là... Les chiffres, déjà, parlent pour nous. Hein. 103 victoires, 7 titres de champion du monde. Lewis Hamilton, il a tout. La précocité, il est arrivé gamin en Formule 1 et il a gagné quasiment tout de suite. La longévité, parce que il est encore là, Lewis Hamilton, capable alors de se battre encore. On le voit encore plus là cette saison. Ça a été compliqué, mais ça y est, le Lewis Hamilton qu'on connaît est en train de ressurgir. Il a fait tomber des barrières parce que sa couleur de peau, évidemment, c'était quelque chose de totalement ovniesque dans le monde de la Formule 1 et plus particulièrement, et dans l'ensemble des sports mécaniques. C'est un monument.
Ouais, un monument. On peut évoquer son talent, on peut évoquer sa personnalité, on peut évoquer surtout son évolution. Le Hamilton d'aujourd'hui, alors vous me direz, c'est bien normal, mais le Hamilton d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout au Hamilton qu'il était en 2007-2008. Vraiment, il y a une vraie volonté de sa part de faire évoluer son sport, de faire progresser sur les plans de la diversité notamment. Et je suis persuadé que dans 10-15 ans, si la F1 sera totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, Hamilton, il sera pour quelque chose. Et puis, il y a évidemment ses chiffres, autant de victoires que de pôles. On a dépassé les 100. Et il y en aura probablement d'autres encore. C'est 7 titres de champion du monde. Et ses duels aussi avec des pilotes d'un talent fou aussi. On a cité Fernando Alonso un petit peu plus tôt. On peut citer Button, on peut citer Nico Rosberg et cette lutte en 2016 qui avait tourné à l'avantage de l'Allemand. Donc oui, là aussi, il y a beaucoup de moments marquants. Il y a un pilote qui est complet, qui est capable d'être fort sur la stratégie, qui est capable d'imposer ses idées, qui est capable d'être fort dans toutes les conditions. Pardon. Voilà, c'est le pilote ultime pour moi.
Exactement. Ouais, on est OK là-dessus. C'est pour ça que c'est aussi un privilège. De le voir évoluer, de le voir continuer à évoluer. C'était un petit peu douloureux là, de le voir en difficulté au volant de cette Mercedes W13, mais on se dit que finalement, s'il parvenait à aller chercher une victoire cette saison, ça serait quand même exceptionnel. D'abord parce que le record continuerait d'avancer, mais aussi parce que ça vient récompenser un garçon qui continue de se battre, qui n'a absolument plus besoin de rouler en Formule 1. Il a déjà de quoi vivre sans vie devant lui, mais qui continue finalement. Parce qu'il aime ça et qu'il a ça au fond de lui.
Oui, et qui sait qu'il a encore des choses à faire, alors sur le plan sportif évidemment, aussi pour faire évoluer son sport.
Exactement. Voilà donc notre top 10, ce qui nous permet donc d'évaluer Sébastien Vettel à la 7e place au classement, derrière Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, voilà pour le podium, Alain Prost 4e, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Sébastien Vettel, donc 7e, devant Fernando Alonso, Jackie Stewart et Nelson Piquet.
Il y a un absent,
et oui,
on peut l'évoquer. Oui. C'est Max Verstappen, champion du monde la saison dernière, qui n'est pas dans ce top 10.
Alors il va falloir qu'on explique pourquoi on n'a pas mis Max Verstappen dans ce top 10 des pilotes de Formule 1.
Alors il y a plusieurs raisons. On avait fait le choix dès le début de ne pas accorder la priorité au titre, parce que sinon ça aurait été un petit peu trop simple. Il faut aussi qu'il y ait une sensibilité et quelque chose de plus subjectif. Mais quand même, ça compte. Verstappen n'a qu'un titre de champion du monde. Il en aura peut-être deux à la fin de cette saison. Pour nous, c'était encore un petit peu tôt pour le mettre dans ce top 10, même si, a priori, il a tout pour y être d'ici peu, à moyen terme, on peut dire ça, Gilles. Parce qu'il y a aussi d'autres points, on peut les évoquer. Au niveau des stats, ce n'est pas encore sensationnel. Max Verstappen, contrairement à l'idée qu'on peut se faire du pilote qu'il est, ce n'est pas un très grand poleman pour le moment. Donc il y a tous ces éléments-là qui ont fait que finalement, il est resté loin du top 10. Alors loin, c'est un grand mot, mais en tout cas, il est aux portes du top 10.
Il a, sur les chiffres, hein, 154 départs en Grand Prix, 28 victoires quand même, déjà 28, ça commence à faire hein, pour un garçon qui est loin d'être vieux, 70 podiums et effectivement seulement 16 pole positions. Donc c'est peut-être pas le plus rapide sur un tour, mais vous me direz, c'est le dimanche qu'on marque des points.
Mais il y a quelque chose qui tournera très vite en sa faveur, c'est évidemment sa saison 2021, parce que battre Hamilton comme il l'a fait, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé au dernier Grand Prix parce qu'on va recréer beaucoup de débats et ce n'est pas, le cas, ce n'est pas l'objectif. Mais réussir à battre Hamilton à ce niveau-là, avec Mercedes à ce niveau-là, finalement, ça pèse lourd aussi dans la balance. Donc, s'il n'est pas dans le top 10, il est en tout cas aux portes et on peut imaginer que d'ici une, deux ou trois saisons, il sera beaucoup plus haut.
Exactement. On en refera un classement des meilleurs pilotes de Formule 1 d'ici quelques années. À n'en pas douter, Max Verstappen sera dans le coup, lui qui a, on l'a dit, hein, effacé pas mal de records de noms, et notamment celui de Sébastien Vettel en termes de précocité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'évaluation de la carrière de Sébastien Vettel et l'absence de Max Verstappen de ce top 10. Julien, il nous reste une chose, une information à donner à ceux qui suivent ce podcast Les Fous du Volant, qu'on est très heureux de retrouver. C'est les horaires du Grand Prix de Belgique. Qui va animer le week-end prochain. Les essais libres commenceront vendredi à partir de 14h, hein, début d'après-midi, pour la première séance d'essais libres. La qualif samedi à 16h et le Grand Prix dimanche à 15h. On va remercier Antoine Le Breton qui a bossé avec nous sur l'édition de ce podcast. Marco Popovic, exactement, le graphiste dont vous ne voyez pas le travail si vous nous écoutez, mais sachez que on isole ce qu'on appelle des pastilles, des extraits pour voir la vidéo. Bon, j'étais pas super bien coiffé aujourd'hui, je sais pas si la vidéo apporte vraiment quelque chose sur ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Cette fois, on a tout dit. On va vous souhaiter un bon Grand Prix de Belgique sur ce fabuleux tracé de Spa-Francorchamps, dont vous allez peut-être découvrir aussi les nouveaux aménagements. Hein, depuis l'année dernière, ça a un petit peu changé. Ceux qui suivent l'endurance ont déjà vu ces nouveaux aménagements, à la fois en moto et en voiture. On a vu. Ça n'avait pas tout réglé. Autant vous le dire tout de suite. Bon, en espérant que, évidemment, ça améliore largement la sécurité. On se quitte là-dessus, Julien. On se retrouve la semaine prochaine dans Les Fous du Volant. Salut. Et d'ici là, on coupe le contact.
Salut à tous.